Bien, installez-vous. Donc, bonjour à ceux qui étaient là hier. Ils ont bien récupéré, j'espère. Et bienvenue au nouveau. On ne va pas vous faire le résumé d'hier parce que c'était vraiment trop dense. Mais donc, comme vient de le dire Denise, tout est conservé, tout est archivé. Et donc, vous pourrez vous y référer. Voilà, donc dans notre... J'aime bien parler un peu des anciens temps. Dans notre vue, il y a, en l'an 2000, il y a 22 ans, il y a eu un article de Jacques Lavabre et Victor Andréassian qui est toujours d'actualité et qui signalait qu'on ne disposait pas des moyens de quantifier précisément l'impact de la forêt sur le cycle de l'eau et qu'il n'était pas possible de fournir aux gestionnaires de l'eau et des forêts des modèles qui constituent de véritables outils de prise de décision. Aujourd'hui, il en existe. Et il en existe plusieurs. Et on a eu l'ambition de vous les présenter, peut-être pas tous, mais un grand nombre. Parce que ça peut combler un peu ce que disait Jacques Lavabre, ce manque de connaissances. Alors, ces présentations vont peut-être être un peu ardues. C'est des modèles. Donc, on a dit aux intervenants pas trop d'équations, mais quand même, s'ils veulent nous expliquer comment ça marche, il faut qu'ils passent par là. Alors, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais pour être attentif, il faut avoir en tête des questions. Alors, vous avez sans doute vos propres questions, et là, je vous en soumets quelques-unes, comme ça, ça vous permettra de vous accrocher. Alors, ces modèles, qui peut les utiliser, se poser la question. Les données nécessaires pour les faire fonctionner existent-elles? Sont-elles facilement partageables? Parce que des fois, elles existent, mais ce n'est pas facile de les récupérer. Quelle est la bonne échelle d'utilisation de ce modèle? Bassin versant, sous-bassin, massif, parcelle. Ces modèles peuvent-ils alimenter des débats lors d'une étude, par exemple, de plan de débroussaillement et d'aménagement forestier pour les forestiers, au cours d'une charte de forestière de territoire pour les élus ou pour les acteurs de l'eau à l'occasion de l'étude d'un stage ou d'un contrat de rivière? Voilà un peu ces questions, et on va voir si ces modèles y répondent. Alors pour commencer, on a beaucoup parlé de l'arbre, mais en dessous de l'arbre, il y a les buissons, il y a les arbustes, et il ne faut pas les oublier. Est-ce qu'ils consomment de l'eau? Est-ce que c'est négligeable? Est-ce que c'est important? Donc il y a Bernard Prévoteau, qui fait partie, comme certains intervenants d'hier, de Recover au sein de l'INRA à Aix-en-Provence, qui va nous en parler. Merci Bernard.
Merci. Donc, je vais commencer la présentation. Je vais mettre.
Elle est sur l'écran.
Petit temps de latence, ça va venir.
Donc l'unité Recover traite du fonctionnement des écosystèmes et des risques, c'est
voilà.
Ça
Voilà, fonctionnement des écosystèmes méditerranéens et des risques d'incendie. Et là, je vais parler donc du bilan hydrique et du microclimat en forêt sur l'influence des strates, en fait, avec une application au peuplement de Pindalep. On va parler de Pindalep là, pendant cette présentation. Donc, le contexte. Excusez-moi. Décidément, ça met du temps, mais ça met beaucoup de temps. Ah voilà, donc, je vais essayer de ne pas appuyer par inadvertance. Donc le couvert forestier donc, influence le microclimat et le bilan hydrique, et le forestier peut contrôler en fait ces différents couverts. Et la spécificité de nos peuplements méditerranéens, c'est qu'on a des strates arbustives qui sont souvent très développées, mais assez peu considérées dans les modèles. Souvent, on ne prend pas en compte ces strates, de façon explicite du moins. Donc la question, là, au cours de l'exposé, c'est en fait comment ces strates, à la fois arborées et arbustives, influencent le microclimat, et le bilan hydrique. Donc au cours de l'exposé, en fait, il y a une approche expérimentale, c'est-à-dire on a un site expérimental, on a fait des mesures sur le pin d'Alep, mais il y a aussi des données tirées de la littérature. Donc c'est un mix des deux, en fait. Donc j'appuie et j'attends, c'est ça, pendant... j'appuie l'index live, mais j'ai l'impression que c'est... On peut pas le faire. Ah oui, d'accord. Voilà, donc un petit temps. Voilà. Donc on va parler du microclimat. Alors microclimat, c'est à beaucoup de paramètres du microclimat. Il y a de l'interception de la lumière, température de l'air, humidité de l'air, déficit de pression de vapeur saturante. Déficit de pression de saturante, c'est le degré de sécheresse de l'air, en fait. C'est la différence entre la quantité d'eau contenue entre l'air tel qu'on le mesure et puis l'air qui est saturé en humidité. Donc c'est un indicateur important. Et là, je parlais plus de température et de VPD, donc l'acronyme anglais de déficit de pression de vapeur. Et le bilan hydrique, alors vous avez peut-être vu souvent ce schéma, vous allez le revoir encore, je pense. Donc je vais le présenter rapidement. Donc le bilan hydrique, qu'est-ce que c'est? C'est des entrées et des sorties. Donc l'entrée, c'est la précipitation. Cette précipitation, en fait, elle passe à travers le feuillage. Donc c'est la pluie transmise. Elle s'écoule le long des troncs. Et elle alimente l'horizon, les sols, donc on peut stratifier le sol en différents horizons, et elle alimente la réserve utile, donc très important en foresterie. Et vous voyez qu'il y a des sorties, donc ça peut être la transpiration, des strates hautes, des strates basses, on voit l'évaporation du sol aussi, de la végétation au sol, les interceptions, comme je l'ai mentionné. Et donc il y a des paramètres importants pour si on veut modéliser qui sont pour le climat, la pluie, l'évapotranspiration potentielle, pour la végétation, l'indice de surface foliaire, LAI, donc l'acronyme anglais, et puis les réservoirs du sol. Alors, je devrais anticiper le passage. Donc ça va être revu. Je vois qu'il y a Nathalie Breda qui va intervenir après, donc je pense qu'elle va en reparler. Donc le dispositif expérimental sur lequel elle s'appuie, c'est celui qui est situé près de Saint-Mythe les Remparts. Donc vous avez donc les températures moyennes, la précipitation, le TP moyen. Donc on a 12 placettes forestières installées sous différents types de couverts en 2007. Donc du couvert dense, on voit un couvert léger, un couvert donc avec une éclaircie qui était plus forte, un couvert moyen avec une éclaircie moyenne. Et on a aussi des parcelles en découvert sur des banquettes. Donc voilà ce dispositif expérimental. Et donc dans ce dispositif, dans lequel on a mis des plantations, je meuble parce que je viens de passer la diapo suivante, mais elle ne passe pas. Donc on a mis des plantations de feuillus, en fait, de différents types de feuillus. On a mis du frêne à fleurs. Elle est passée, la diapo. On a mis du frêne à fleurs, du caroubier, de l'arbousier, etc. Je ne vais pas présenter les résultats. Changement de pile. Et donc ce qu'on a fait aussi dans ce dispositif, c'est qu'on a... On a supprimé sur la placette, on a supprimé sur une moitié de la placette de la strate arbustive. Qu'on voit, donc le couvert léger, vous avez une strate arbustive plus développée. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a du chêne vert, du chêne kermès, de la filaire, du romarin, enfin tout un tas d'espèces arbustives méditerranéennes. Et dans le couvert moyen, on a fait la même chose. Donc c'est pour mesurer en fait l'influence en fait de cette strate arbustive. Donc je vais passer la nouvelle diapositive, mais je ne peux plus parce que je n'ai plus ma télécommande. Ah super, merci. Et donc on a mesuré des paramètres de l'environnement. Alors là, ce qu'on voit, les solarimètres, donc vous avez dans le domaine du parc, vous avez les clairements transmis, hein, donc en plein découvert. Alors on a des placettes aussi en découvert. Donc c'est ce qui est indiqué, découvert plus B, c'est on a mis en fait le capteur à l'abri d'un buisson, en découvert, mais à l'abri d'un buisson. Vous avez le couvert léger avec le buisson et les couverts denses. Et on a mesuré aussi les teneurs en eau du sol avec des capteurs EC5 et Teros, des sondes Teros qui permettent aussi de mesurer la température du sol. Et là, je passe ma diapo. Elle est passée ? Je vais essayer d'anticiper. Alors, sur le microclimat, je fais quelques résultats, mais pas tous. Là, on voit la température max en été pour deux années, 2021 et puis 2022. On connaît tous ce qui s'est passé en 2022. Donc, on peut voir. En fait, c'est pour illustrer le pouvoir tampon des strates. Donc, vous voyez, en découvert, par rapport au buisson, on atténue fortement donc, ces températures max. Et. De même dans le couvert léger, et vous voyez que le couvert dense ressemble au couvert léger avec des buissons, avec une strate arbustive. Et si on regarde sur le VPD, en fait, on a un peu la même structure, vous voyez, entre le couvert dense, donc ce gradient, en fait, entre le couvert dense et puis, bien sûr, le découvert. Donc, voilà, donc je vais maintenant illustrer avec... Là, c'est passé plus rapidement. Les températures moyennes du sol, hein, les sondes étaient mises à 30 cm dans le sol. Et là, vous voyez ici, sur ce graphe, nous avons découvert dense, moyen, léger, sans strate arbustive. Donc la courbe en noir, c'est le couvert dense. Donc vous voyez, pendant l'hiver, les températures moyennes sont plus élevées sous le couvert dense, sont plus basses dans le couvert moyen et dans le couvert léger. Et là, au printemps, vous voyez, les courbes s'inversent. Et on voit bien en été qu'en fait, on a des températures moins élevées dans le couvert dense et puis elle a plus élevées dans le couvert léger. Si on compare maintenant le couvert léger avec la strate arbustive, avec le couvert léger de pin d'Alep sans strate arbustive, on observe un pattern un peu similaire. Donc vous voyez cet effet ici du léger buisson avec des températures plus élevées. Et les courbes s'inversent, et en été, on voit des températures plus fortes dans le couvert léger que dans le couvert qui bénéficie de la strate arbustive. Donc là, ça permet de montrer clairement ces choses. C'est bon ? Non. Voilà. Alors maintenant, je passe à la strate basse, le bilan hydrique. Je sais pas pourquoi ça. Difficile. On devrait passer à la main. Si elle est passée, elle est repassée. On est sur celle-là. C'est pas sur celle-là que je voulais aider. On est sur celle-là. Oui, d'accord. C'est pas ce qu'on voit à l'écran. Désolé. Donc la pluie transmise à consommation en eau dans des strates basses. Donc c'est bien, je ne suis pas. Et tu peux me montrer la précédente. Je n'ai pas loupé un. Oui, c'est là. Et...
Encore. Tu veux que je les passe ?
Ouais, ouais. Vas-y, tu peux remettre en arrière. Ouais. Alors là, c'est la suivante, celle-là. Désolé, mais cet instrument est mortel. Il m'envoie des diapos, 3-4 fois de diapos en avant. Donc les composantes du bilan hydrique. Voilà, je reprends mon discours. Composantes du bilan hydrique. Ok. Donc, le composant du bilan hydrique, donc le sol. Là, vous avez mesuré, donc on a mesuré sur notre dispositif ce qui est important pour caractériser la réserve utile, c'est-à-dire la texture du sol. Vous voyez ici, c'est dominé par le sable et du limon. Le pourcentage de racines fines et d'éléments grossiers. Et puis, il y a un autre élément aussi qu'on ne mesure pas souvent parce que c'est difficile, c'est la densité apparente de la terre fine. Donc, vous voyez ici comment on mesure ce. Alors on enfonce des cylindres de volume constant pour avoir cette densité qui évolue au cours du temps. Donc ça au cours de la profondeur. Donc ça permet de calculer une réserve utile qui en fait, dont la formule est ici, qui dépend de la capacité au champ, la quantité d'eau maximale que peut contenir le sol, ou l'horizon, hein, si on découpe notre sol en différents horizons, et le point de flétrissement, l'humidité au point de flétrissement, multiplié par l'épaisseur donc, du sol ou de l'horizon, la densité apparente, et il faut enlever la charge en cailloux ou en éléments grossiers. Donc pour... donc diapo suivant, peut-être. Ouais. Est-ce que ça a évité de... Ouais, ça va mieux. Donc l'interception, donc ça, le sol, alors l'interception de la pluie par la strate haute, et ben, la pluie, alors on s'appuie sur l'étude de Laurens et Domingo qui ont fait une méta-analyse dans le sud de l'Europe, et vous voyez que la pluie transmise, ça peut être 70% pour le pin pignon, 70% le chêne, 87-88% pour les chênes décidus. Et donc il y a cette pluie qui s'écoule à travers le feuillage, mais qui peut aller couler le long des troncs. Et là, c'est en moyenne, suivant cette étude, de 3%, avec des variations fortes. Hein, c'est 12% pour le pin noir, selon l'étude, et 1% pour le pin sylvestre. C'est quelques pourcents en général. Pour le pin d'Alep, alors puisqu'on s'intéresse au pin d'Alep, il y a une étude qui a été faite par Molina et Del Campo dans le sud de l'Espagne. Ils ont pris des peuplements, ils les ont éclaircis, ils ont mis des pluviomètres dessous. Et donc, ils ont mis un modèle, ils ont proposé un modèle de la pluie transmise par rapport à la pluie incidente en fonction de la surface terrière des peuplements. Et donc on voit que pour des couverts, alors ce qui est assez étonnant, c'est que des couverts très fermés, hein, par exemple 40% de surface terrière, c'est très important, on a 60% de pluie transmise, donc c'est des interceptions fortes, et l'écoulement de long des troncs, suivant les auteurs, est de 1,5%. La diapo suivante. On fait à la main, ça va mieux. Voilà. Et alors pour les strates basses, alors il y a beaucoup moins d'études hein, sur la transmission de la pluie par les strates basses, mais donc il y a une très forte variabilité suivant la même étude. Hein, ça va être de 49% à 63% pour une autre étude de Magliano et al. De 2019 où eux ils s'intéressent. En fait, ils ont fait une méta-analyse sur des études qui concernent l'Australie, l'Espagne, enfin tout ce qui est les zones sèches en fait. L'écoulement de long des tiges est très variable, hein, ça va de 3,8 à 26%, de 2% à 43%, donc une grande variabilité. Et là, il y a une étude intéressante qui a étudié en fait, la forme des buissons sur l'influence sur l'écoulement de long des tiges. Donc les auteurs là ont pris carrément, ils ont élevé des buissons, ils les ont arrosés en labo pour voir un petit peu comment ça s'écoulait. Donc on voit par exemple pour le doricnium, le romarin et le cisne blanc. On a donc les stem flow, l'écoulement de long des tiges, vous voyez, de 21 à 17%, donc c'est important, beaucoup plus important pour les arbres. On a la storage capacity S, c'est la quantité d'eau en fait, qui est retenue par la plante. Et on a ça, le funneling ratio, ici, qui en fait, mesure en fait, la concentration de la pluie au niveau de la tige, rapportée à la tige. Ici, par exemple, 260, ça veut dire qu'il... l'écoulement recueilli au niveau basal de la tige est 260 plus élevé qu'une même surface en découvert. Donc vous avez un effet de concentration de l'eau de pluie au niveau des buissons qui est lié quand même aux formes particulières, le fait qu'il y a plusieurs tiges et puis vous voyez ces formes en cône qui permettent de capter l'eau de pluie, de la concentrer au niveau des tiges et de l'infiltrer au niveau du système racinaire. Diapo suivante. J'utilise plus ça. Alors on a mesuré nous-mêmes on a essayé de mesurer en fait des pluies transmises sous des chaînes Kermès. Ça a été très difficile. Néanmoins voilà une relation entre la pluie transmise et puis la pluie à l'extérieur. Vous voyez une relation linéaire ici. Donc ça fait 38% environ d'interception. Chaque croix en fait représente donc une moyenne pour 4 buissons pour un épisode pluvieux. Et on n'a pas trouvé de relation entre la dimension du buisson, sa surface foliaire et la transmission de la pluie. Donc c'est pas... En plus, il y a une énorme variabilité. On peut avoir si on change d'endroit dans le buisson, on va avoir des systèmes différents. Donc il y a une très grande variabilité. Alors c'est peut-être ce système-là n'est pas super adapté. Voilà, diapo suivante. Il y a 20 minutes de présentation, mais il y a 10 minutes d'attente, en fait, de diapo. Alors, contribution, là, c'est un résultat d'une méta-analyse qui a été faite, alors pas en zone méditerranéenne, parce qu'il n'y avait pas les papiers, qui a été faite en zone tempérée, sur 53 articles, et qui montre, en fait, ici, la contribution, la consommation en eau relative du sous-étage, qu'est-ce que consomme le sous-étage en eau, par rapport à ce fameux LAI, cet indice de surface foliaire. Et ce qu'on observe, c'est que c'est une forme d'exponentielle négative. Donc ça consomme beaucoup quand on a des couverts faibles ici, et puis il y a un point de bascule environ vers entre 2 et 3, et puis après ça se stabilise à un peu moins de 30%. Donc on voit que le sous-étage joue un rôle important, alors c'est en zone tempérée, hein, dans des couverts légers, donc c'est lié à la fois parce que le sous-étage, il y a deux effets, il y a le sous-étage qui est plus développé sous les couverts légers, mais il y a aussi les paramètres climatiques qui varient, il y a plus de lumière transmise, donc il y a une évaporation, une demande de transpiration et d'évaporation qui est plus forte sous les couverts légers. Donc ça, voilà, diapo suivante. Là, c'est des mesures. Donc là, sur notre système de pins d'Alep, on a mesuré des teneurs en eau du sol. Donc là, je livre les résultats du teneur en eau du sol. Alors, c'est toujours le même système, deux années, 2021 et 2022. Donc une année, je dirais, pluviométrie normale et une année sèche, hein, ici. Donc on voit ici le couvert dense, vous voyez, avec des teneurs en eau qui sont plus faibles. Là, on le voit bien. Et au bout d'un moment, quand le sol est sec, ben, ça se rejoint. Et puis des teneurs en eau qui sont plus élevées dans le couvert léger, avec le couvert moyen qui ont un niveau intermédiaire. Alors ça, c'est toujours sans strate arbustive. Et en 2022, on a le même système. Bon, on voit bien la différence entre les deux systèmes. Alors c'est des teneurs en eau relatives entre 0 et 1. Et là, le 0,4, c'est... Souvent, on considère que, alors pour un réservoir total, qu'en dessous, on est en stress hydrique. Donc, vous voyez qu'on peut mesurer à la fois la durée ici, en nombre de jours ici, qui est beaucoup plus longue pour cette période-là de stress hydrique. Et puis, vous avez l'intensité. Il faudrait assurer en fait toutes ces zones en dessous de 0,4 pour avoir une idée de l'intensité du stress hydrique. Et là, c'est la même chose avec ou sans strate BATS pour le couvert léger. Alors là, il se passe des choses un peu différentes. J'ai du mal aussi à expliquer, hein, honnêtement. Donc là, on voit que le léger avec buisson, il semble avoir une consommation en eau plus forte que le couvert léger simple. Et donc, diapo suivante. Alors là, c'est un essai de bilan hydrique. Alors, c'est la méthode utilisée, c'est la méthode de Bijoux, ce qui sera présenté juste après par Nathalie Breda. Donc, c'est pour montrer donc en fait les quelques peuplements, types de peuplement de pins d'Alep, pour deux années. Donc il y a il doit avoir 2018 et 2022. Donc les pluviométries ici, elles sont très différentes. Et donc vous avez l'interception à chaque fois, la transpiration, l'interception. Là vous avez les réserves utiles et vous voyez ce qui sort. En fait, sous le profil, en fait, c'est le drainage. C'est-à-dire ce qu'on peut parler de l'eau verte, l'eau bleue, ce qui est consommé par le peuplement et la végétation, et ce qui part finalement en drainage sous le profil, qui serait l'eau bleue. Et vous voyez qu'entre les deux années, on a du drainage, alors qui est plus faible dans les couverts denses et plus élevé dans les couverts légers. Et puis, on n'en a pratiquement pas pour des années très sèches comme 2022. Donc voilà, et en même temps on voit le nombre de jours de stress, c'est-à-dire le nombre de jours pour lequel en fait la teneur en eau relative passe en dessous de 40%. Donc pour le pin d'Alep, c'est un critère important pour la croissance. Donc on voyait que ce nombre de jours augmente très fortement entre les deux années et diminue des couverts denses aux couverts légers. Voilà, et donc je vais maintenant conclure, je pense. Ça arrive. Il faudrait faire une petite animation de chaque diapo, mais je n'ai pas réfléchi à ça. Donc, microclimat, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, la capacité de tampon très élevée du couvert arboré, c'est ce qu'on a montré en mesurant le microclimat. Alors le sous-bois a un effet plus modéré, c'est d'abord le principal pouvoir tampon, c'est la strate arborée, mais le sous-bois intervient notamment dans les peuplements plus ouverts où il est plus développé. Et un système ouvert, donc les buissons, ils peuvent avoir un intérêt pour atténuer les extrêmes climatiques. Par exemple, les collègues espagnols font beaucoup de plantations en découvert en s'appuyant sous les buissons, à l'abri de buissons, on installe des plants à l'abri de buissons. Donc il y a l'effet microclimat qui est important, réduit la demande évaporative. Il y a aussi l'effet que le buisson peut concentrer aussi l'eau à sa base. Il peut en consommer aussi, hein, c'est jamais simple. Dans le bilan hydrique, sans surprise, on dirait une consommation forte par les couverts fermés. Donc le rôle des sous-bois, alors il reste plus modeste, enfin on a des très sèches d'après nos résultats, mais ça a encore beaucoup d'incertitudes, hein, pour être franc là-dessus. Continue nos mesures. Et est-ce qu'il faut raser le sous-bois? C'est un débat. Je dirais, attention, le sous-bois, qui n'est pas abordé du tout dans cette présentation, c'est un élément clé de la biodiversité, de la régénération. Donc il a quand même un rôle. Là, on ne l'a pas mis en exergue. On a parlé juste de bilan hydrique et de microclimat, mais c'est un élément aussi important de la biodiversité, de la régénération. Voilà, j'ai fini.
Merci.